L'air de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Laissez-moi vous rassurer, vous avez vraiment très très bien fait de rester à l'écoute à partir de ce moment même. Et si vous étiez en train de faire n'importe quoi, laissez un peu de côté et concentrez-vous, ouvrez vos cœurs et surtout ouvrez grandement vos oreilles. Parce qu'il n'est pas certain que ce que vous allez écouter, que vous ayez l'occasion de l'écouter une seconde fois ou ailleurs. Oui, je dis bien, ouvrez grandement vos cœurs et vos oreilles. Parce que rien ne dit que ce que vous allez écouter, vous aurez encore l'occasion de l'écouter une autre fois ou un autre jour. Oui, vous écoutez l'heure de la vérité. Pour vous servir, je suis, je reste, je demeure toujours votre humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Je rends d'abord grâce à Dieu pour ce merveilleux privilège qu'il nous accorde une fois de plus de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Et c'est tout à fait normal parce que un moment dans la sainte parole du Seigneur vaut mieux que mille ailleurs. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oui, Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ce moment, merci pour tous ces auditeurs, toutes ces auditrices qui sont en train de m'écouter. Seigneur, bénis ce moment, bénis tout ce que nous allons partager, bénis ta parole, bénis la vérité qui va sortir, et surtout, que toute pensée, Seigneur, qui a été tenue captive de quelque manière que ce soit, qui va écouter ta parole, Seigneur, ô Dieu, soit libéré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, que tout auteur qui se lève contre la connaissance de la vérité soit renversé au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Père de prendre tout le contrôle et que toute la gloire te revienne. Amen. Très chers auditeurs, très chères auditrices, comme promis, nous allons continuer notre enseignement. Je vous l'avais promis, nous allons nous focaliser sur les fausses doctrines qui sont proclamées, enseignées et même défendues et qui n'ont rien à voir avec la parole révélée, avec la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Et si le Seigneur a permis qu'il y ait cette émission sur cette radio aussi, que vous ayez cette tranche, l'heure de la vérité, c'est parce que le Seigneur veut vous sortir de votre captivité, de votre ignorance. Parce que je sais une chose, les hommes avec leur sagesse, avec leur théologie, leur philosophie, leur tradition ne peuvent pas vous sauver. Ce n'est que la vérité du Seigneur Jésus-Christ qui peut vous affranchir et qui peut vous sauver. Aucune personne n'entrera au ciel en passant par la sagesse des hommes ou par la philosophie, la tradition et la théologie des hommes. Mais si c'est la vérité biblique, cette vérité peut vous amener au ciel. Donc, nous allons continuer par la grâce de Dieu à nous pencher sur les fausses doctrines. Nous avons déjà abordé la question du salut. Et nous avons vu que le chemin du salut, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Si vous cherchez le salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes perdu. Aucune religion, fût-elle la première religion sur cette terre, ne peut vous donner le salut. Parce qu'aucune religion n'est morte pour vous à la croix. Oui, c'est Jésus seul qui sauve. Et nous avons également vu le baptême à la lumière des Saintes Écritures. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé que ceux qui croient en lui soient baptisés. Et la condition pour être baptisé, c'est croire. C'est pour cette raison que tant qu'on n'a pas cru, on ne peut pas se baptiser. Et baptême veut dire immersion totale. Tant qu'on n'a pas plongé, on ne peut pas parler de baptême. Il est vrai que les hommes persistent dans leur théologie à vouloir asperger les gouttes d'eau sur la tête des gens en les faisant croire que c'est le baptême. En fait, la vérité, c'est que ça n'a rien à voir avec la parole du Dieu vivant. Moi, je suis là pour vous proclamer uniquement la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour défendre un système religieux. Je ne suis pas là pour défendre une religion. Je ne suis pas là pour défendre mon titre ou quoi que ce soit. Je suis là tout simplement pour proclamer la vérité et surtout la vérité biblique. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous invite toujours à avoir un stylo et sur quoi noter afin de pouvoir prendre tout votre temps pour vérifier terre à terre tous les versets bibliques qui sont donnés à partir d'ici. Parce que mon souci, c'est que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Oui, nous avons vu à la lumière de cette parole de Dieu ce que la Bible enseigne concernant le baptême et ce que les hommes pratiquent et qui n'ont rien à voir avec le baptême. Et entre autres, en passant, nous avons vu la confirmation qui ne se trouve nulle part dans la sainte parole du Dieu vivant et le baptême des enfants qui ne se trouve non plus dans la parole de Dieu car c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous avons également vu à la lumière des saintes écritures qui est Jésus. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de Jésus que les gens prêchent et suivent sur cette terre qui n'ont rien à voir avec le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible est bel et bien né par la vertu du Saint-Esprit, l'a vécu et il a prêché la bonne parole du Seigneur. Il est mort, crucifié. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est monté dans les cieux où il règne sur tout l'univers. Il revient un jour chercher son église. Son église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en lui. Et son église, ce n'est pas un système religieux. Nous allons également nous intéresser au mariage, à la mort. Nous avons déjà également eu à partager sur la mort. J'y reviendrai parce que c'est un sujet très très important. Beaucoup de gens ont enseigné les hérésies et les faussetés concernant la mort. Par exemple, le purgatoire qui n'a aucun fondement biblique. Et les soi-disant prière que l'on fait en faveur des morts, alors que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et pourtant, il y a beaucoup de choses que l'on fait en escroquant les gens dans les lieux de deuil, en les faisant croire qu'on peut prier pour ceux qui sont morts pour changer leur destinée. C'est des faussetés. Et nous allons parler également de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église à la lumière des Saintes Écritures? Nous allons parler des serviteurs de Dieu, des dîmes, des offrandes. Nous allons parler des fêtes et cérémonies religieuses. En fait, un vaste programme. Et si Dieu le permet, nous allons aborder tous ces sujets pas à pas à la lumière des Saintes Écritures. Très chers auditeurs, très chères auditrices, mesdames et messieurs, je vous invite à rester tout simplement à l'écoute.
serviront, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Au milieu des problèmes, comme au jour de beau temps, moi et ce que j'aime, ma femme et mes enfants serviront le Seigneur qui nous a franchis tout au long de notre
Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chers auditrices, vous êtes toujours à l'écoute de l'heure de la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Je voudrais vraiment que vous compreniez très bien tout ce que nous allons partager. Et pour cette raison, pour que vous puissiez saisir certaines choses, j'ai jugé nécessaire de faire un peu de l'histoire avec vous, pour voir comment les fausses doctrines et les faussetés se sont introduites dans l'église du Seigneur. Oui, je crois que c'est nécessaire. Nous allons un peu étudier l'histoire de l'église. Et ça va beaucoup nous aider. C'est vrai que c'est un vaste programme, mais je vais essayer de résumer, de faire le condensé. Là, ça va vous donner vraiment de comprendre ce qui s'est passé exactement pour que nous nous retrouvions avec les fausses doctrines et les faussetés enseignées au nom de Dieu et surtout pratiquées et même défendues. Et avant cela, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, où il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, il est écrit, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Oui, donc, c'est possible de falsifier la parole de Dieu. Et beaucoup de gens ont falsifié la parole de Dieu. Mais il est écrit ici, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et dans 2 Pierre chapitre, 2e épître de Pierre chapitre 3, à partir du verset 15 au verset 16, nous pouvons lire ceci, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 15 au verset 16. Il est écrit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leurs propres ruines. Puis la Bible nous dit ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal affermis et qui tordent le sens des écritures pour leurs propres ruines et surtout pour la ruine de ceux-là qui les écoutent. Donc sachez que si vous écoutez ceux qui tordent le sens des écritures, non seulement ils se ruinent, mais ils vous ruinent également. C'est pour cette raison que vous devez faire très très attention à tout ce que vous écoutez. Et surtout faire comme les chrétiens de Bériens, qui examinaient tout ce que les apôtres prêchaient, pour être sûr que ce qu'on leur disait était vrai. Mesdames et messieurs, très chers amis, vous tous qui m'écoutez en ce moment, rappelons-nous que l'église primitive, c'est-à-dire la première église, l'église du Seigneur Jésus-Christ, a commencé le jour de la Pentecôte. Et cette église était totalement centrée sur Christ. Elle vivait dans la sainteté et la gloire de Dieu se manifestait au milieu d'elle. Et ceux qui vivaient dans le péché au sein de cette église étaient rapidement sanctionnés. Oui, étaient vraiment sanctionnés. À l'instar d'Ananias et Saphira, les apôtres étaient simples et ils n'avaient ni or ni à Jean. Ce que nous pouvons lire dans Actes chapitre 3. Cependant, une grande onction reposait sur les vies. Ce qui n'a rien à voir avec les apôtres et ceux qui se disent serviteurs de Dieu que nous voyons de nos jours, qui sont parfois trop riches, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'or, mais qui sont pauvres spirituellement, tout simplement parce qu'ils ont abandonné la vérité. De nos jours, la vérité est injustement retenue captive par ceux-là même qui sont censés la défendre. La majorité des religions, des systèmes dénominationnels dites chrétiennes et des écoles de théologie enseignent des fables philosophiques et humanistes qui sont basées sur les principes de ce monde et non sur la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui nous voyons une grande confusion. Parfois, les gens qui écoutent l'évangile ne savent plus vraiment à qui faire confiance parce qu'il y a une grande confusion. Ce qui est tout à fait normal. Si on prêche un même Dieu, si on a la même Bible, comment est-ce qu'il y a la confusion? C'est parce que les gens ne sont plus fondés uniquement sur la parole de Dieu. Les gens enseignent la sagesse des hommes. Les gens enseignent la tradition des hommes, les pensées humaines. C'est pour cette raison qu'il ne peut qu'avoir confusion. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce qu'en étudiant l'histoire de l'Église, nous allons voir que Dieu a toujours veillé afin qu'il y ait toujours un petit reste qui s'efforce de vivre dans la vérité et surtout de la défendre. Oui, et Dieu, avant de revenir chercher son Église, va se rassurer que tout le monde sur cette terre a écouté la vérité. Jésus a dit que lorsque la bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc le Seigneur va se rassurer que tous les hommes sur la terre ont vraiment écouté la bonne nouvelle. Vous pouvez écouter beaucoup de choses sur Dieu, sur Jésus, qui ne sont que les dogmes des religions, mais qui n'ont rien à voir avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et le Seigneur veut que vous écoutiez vraiment sa parole, la vérité, la bonne nouvelle, et non les dogmes des hommes, et non la sagesse des hommes. Et comme je disais tantôt, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'Église pour comprendre pourquoi et comment est-ce que nous sommes arrivés aux faussetés, comment est-ce que nous sommes arrivés aux doctrines qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus et qui sèment la confusion et égarent même beaucoup loin de la vérité. À la fin du premier siècle, un vide se créa quand les derniers apôtres sont morts. Et pour combler ce vide, une caste cléricale émergea. Les réunions libres et ouvertes commençaient à s'éteindre et les assemblées de l'Église devinrent de plus en plus liturgiques. Au IIIe siècle, la distinction clergé-laïque s'élargissait à une vitesse impressionnante. Une structure hiérarchique claquée sur un mélange du modèle religieux païen et lévitique fit surface. Et ceci favorisa l'émergence des spécialistes religieux. Et c'est ainsi que, à un moment donné, nous avons vu que beaucoup d'anciens philosophes qui disaient qu'ils étaient chrétiens se sont introduits dans l'Église et également ont commencé à enseigner des choses qui n'étaient plus vraiment fondées sur la parole de Dieu. Oui, en effet, quelques-uns de ces nouveaux convertis de l'Église chrétienne primitive étaient d'anciens philosophes et orateurs païens. Malheureusement, plusieurs d'entre eux devinrent des théologiens. Et beaucoup également sont connus sous le nom de pères de l'Église. Et ils furent les auteurs de plusieurs livres qui constituent, hélas, le fondement de beaucoup des doctrines enseignées dans les églises actuelles. Certains de ces pères de l'Église n'étaient rien d'autre que des philosophes et des orateurs païens, grecs et romains. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, ce qu'on prêchait et enseignait ne reposait plus uniquement sur la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, je vous invite à rester toujours à l'écoute et surtout d'être vraiment très très attentifs. beaucoup de pères de l'Église n'ont pas vraiment tenu compte de la parole de Dieu dans les écrits. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque nous allons nous pencher sur les différents conciles qu'il y a eu, beaucoup de décisions ont été prises. Malheureusement, lorsqu'on étudie ces décisions qui concernaient l'Église, beaucoup de décisions, des doctrines qui ont été validées ne se reposaient pas uniquement sur la parole de Dieu. Oui, les conciles, il y a eu plusieurs conciles, c'est-à-dire des assemblées des évêques qui se sont réunis pour discuter des choses de Dieu et prendre certaines décisions. Par exemple, le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, fut le premier concile œcuménique convoqué par l'empereur romain Constantin Ier. Celui-ci était alors considéré comme le grand pontife, l'évêque de Rome. Et quant à lui, il n'était qu'un simple ministre élu par les fidèles. Et c'est jusqu'en 872. La tenue de ce concile avait pour but de mettre fin aux controverses qui déchiraient les communautés chrétiennes. Et parmi les différentes doctrines de l'époque, celle d'Arius, prêtre d'Alexandrie, 256-336, qui niait la divinité de Christ, fut rejetée pour confirmer l'égalité entre le Père et le Fils. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient participé à ce concile imposaient en plus un certain nombre de pratiques qui n'avaient aucun fondement biblique. Par exemple, l'ordination, le port des vêtements spéciaux, le catéchisme. Et laissez-moi vous dire également que c'est avec Constantin que dimanche fut décrété comme jour du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses, très chères et très choses, que c'est important que vous le sachiez. Oui, le dimanche fut décrété jour du Seigneur par Constantin. Il avait récupéré le jour de la célébration du dieu païen Mitra, qui équivalait au dieu soleil égyptien. Et il avait imposé aux chrétiens comme le jour spécifique pour se rendre dans les églises, bâtiments, pour y adorer Dieu. Et pourtant, lorsqu'on lit attentivement les Saintes Écritures, le Nouveau Testament, les premiers chrétiens se réunissaient tous les jours. Et l'église à cette époque n'était pas des bâtiments, parce que l'église c'est vous, c'est moi. Lorsque nous allons avoir l'occasion de partager sur l'église, nous allons comprendre également beaucoup de choses. Donc c'est pour vous dire que même s'il arrive que vous alliez adorer le Seigneur le dimanche, sachez tout de même que ce n'est pas seulement dimanche qui est le jour du Seigneur. Vous pouvez adorer Dieu n'importe quand si vous le voulez. Oui, vous, si vous le voulez, adorer Dieu le dimanche n'est pas un péché, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais enlevez de votre tête que c'est ce dimanche qui est le jour du Seigneur. Tous les jours sont au Seigneur. Et si notre programme le permet, nous pouvons décider de l'adorer le lundi, le mardi, le mercredi, ainsi de suite. Et pour confirmer que les premiers chrétiens, par exemple, se réunissaient même tous les jours, nous pouvons lire dans Actes chapitre 2, le verset 46, parce que c'est important que je dis également ce qui est vraiment écrit dans la Sainte Parole de Dieu que nous pouvons vérifier. Actes chapitre 2, le verset 46. Notez et vous pouvez vérifier. Et si vous le voulez, je peux également lire pour nous tous où il est écrit. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient les nourritures avec joie et simplicité de cœur. Nous voyons que c'est tellement clair. Chaque jour, donc c'était tous les jours. Pour dire qu'aujourd'hui, avec nos préoccupations, nous avons beaucoup de choses à faire. Le travail, l'école, les études, tout cela ne nous permet pas de nous réunir tous les jours. Mais si c'était possible, nous devions le faire. C'est ce qui est important de savoir. Nous devons également savoir que le 25 décembre, aujourd'hui connu sous Noël, fut déclaré comme le jour de la naissance du Christ. En réalité, ceci n'est qu'une pure invention, car la Bible ne fait pas mention de la date précise et exacte de la naissance du Seigneur Jésus. Et c'est d'ailleurs étrange qu'on ait situé cet événement en hiver, puisque dans Luc chapitre 2, versets 8 à 13, on nous parle des bergers qui paissaient dans les champs et les veillent de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc nous voyons clairement que ça ne pouvait pas correspondre à cette date que nous connaissons de nos jours, à savoir le 25 décembre, puisque c'était en hiver en Israël. Donc, si Christ était réellement né le 27 décembre, Comment ces bergers auraient-ils pu faire perdre leurs brebis en plein hiver? La réalité est que cette date vraiment n'est pas biblique. C'est ce qu'il faut vraiment le savoir. Parce que ce n'est pas bien, surtout lorsque nous enseignons les choses que nous ne pouvons pas prouver par la parole de Dieu à nos tout petits enfants. Et ils vont grandir avec cela, ce qui n'est pas bien au nom de Dieu. Nous devons enseigner la vérité, surtout à nos enfants, parce qu'ils vont grandir avec cela dans leur esprit. Et nous allons également remarquer que à Constantinople, le concile de Constantinople, 1 en 381 après Jésus-Christ, fut en réalité un schisme qui provoqua une rupture définitive avec les chrétiens qui s'opposaient aux doctrines romaines, y compris certains évêques. C'est lors de ce concile que l'Esprit Saint devint la troisième personne de la Sainte Trinité. Oui, et je tiens également à dire que le mot Trinité n'existe vraiment pas dans la Bible. Il dit le mot Trinité, ce n'est pas dans la Bible. Et c'est aussi lors de cette rencontre que l'on donna la primauté à quelqu'un qui devait prendre toutes les décisions concernant les choses de Dieu. Et Rome également devint le centre du christianisme, alors qu'au départ c'était Jérusalem, au temps de la loi pour le judaïsme. Et à Éphèse, le concile d'Éphèse en 331 après Jésus-Christ affirma la double nature de Jésus-Christ, à la fois divin, fils de Dieu et homme né mortel. Mais, une énorme hérésie fut introduite en déclarant Marie comme étant la mère de Dieu. La mère de Dieu. Lisons par exemple dans Hébreux chapitre 7, le verset 3. Lisons Hébreux chapitre 7, le verset 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Oui, la Bible nous parle ici d'un certain sacrificateur appelé Melchisedec. Et la Bible nous dit que ce sacrificateur qui apparut dans l'Ancien Testament n'avait ni père ni mère. Et la Bible dit que c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour dire que Jésus-Christ, en tant que Dieu, en réalité, n'a pas de mère. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit également que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce que nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Il y a un seul Dieu. Oui, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le concile de Trente. Le concile de Trente en 1545. Oui, à partir de 1545 à 1563 après Jésus-Christ, rectifia des décrets dogmatiques sur le péché originel, la justification par la foi et sur les sacrements. Également, la bénédiction nuptiale fut également instituée. Dorénavant, le mariage devait obligatoirement être célébré devant un homme de Dieu assisté de deux diacres. Et pourtant, dans la Bible, nous ne voyons pas cela. Lorsque nous allons parler du mariage, nous allons entrer dans les détails pour bien comprendre certaines choses. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour, le mariage. Mais nous allons savoir que la bénédiction nuptiale, telle que nous la connaissons de nos jours, n'a pas de fondement biblique. Il existe de nombreux passages dans la Bible qui montrent que le mariage est et surtout demeure avant tout une fête familiale dont les époux sont au centre. Nous aurons vraiment l'occasion d'y revenir terre à terre. Et, très chers auditeurs, très chères auditrices, je cours après le temps parce que j'ai tellement vraiment beaucoup de choses que je voudrais que vous puissiez savoir. Et j'espère que par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, je vais réussir à vous donner l'essentiel. Restez tout simplement à l'écoute.
maison. Nous servirons l'Éternel.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma maison le serviront, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons
Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'aide de la vérité. En ce qui concerne les conciles, il faut l'avouer, à l'origine, ces divers conciles avaient des intentions louables, puisqu'ils avaient pour vocation de gommer les divergences au sein des différents courants chrétiens et d'y mettre de l'ordre. Malheureusement, craignant de perdre un grand nombre de fidèles, encore attachés à certaines pratiques païennes, les initiateurs de ces conciles sont tombés dans le compromis et ont abandonné certaines vérités bibliques. Et c'est également dans tout ce cafouillage que les religions vont commencer à naître. Et l'une des choses qui va caractériser les religions qui vont naître, c'est que les vérités bibliques vont être cachées. Oui, les vérités bibliques vont être cachées. Par exemple, tous les hommes ne pouvaient pas facilement avoir accès à la Bible. On interdisait parfois aux gens d'avoir accès à la Bible. Comment est-ce que les gens pouvaient connaître la vérité, la parole de Dieu, alors qu'ils n'ont pas accès à la Bible? Et il y a eu beaucoup de choses qu'on avait cachées aux chrétiens. Par exemple, le sacerdoce de tous les croyants. Qu'est-ce que je vais dire par là? 1 Pierre 2, 9. Oui, relevez 1 Pierre 2 et 9 nous dit ceci. Je dis bien 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Je peux lire ceci pour nous tous. Vous, au contraire, l'apôtre Pierre ici s'adresse aux chrétiens en général, à tous les chrétiens. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc l'apôtre Pierre était clair que tous les chrétiens étaient des sacrificateurs ou des prêtres. Mais malheureusement, c'était devenu l'exclusivité d'une catégorie de personnes. Ignace d'Antioche, oui, de l'an 35 à 107, Clément de Rome, mort dans les années 100, Cyprien de Carthage, entre 200 et 258 après Jésus-Christ, Clément d'Alexandrie, entre 150 et 220 après Jésus-Christ, fut le premier à poser les bases du cléricalisme et du sacerdotalisme, niant ainsi la réalité du sacerdoce de tous les croyants. Pourtant, sous la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Et nous allons relever cela et vérifier par la suite dans Apocalypse chapitre 1, par exemple, Apocalypse chapitre 1, que je veux prendre le temps, par exemple, de lire pour nous tous, où il est écrit, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5 et 6, il est écrit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, un royaume de sacrificateurs. Donc, Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens des sacrificateurs ou bien des prêtres. Prêtres ou sacrificateurs. en 385, la version latine du Nouveau Testament fut publiée sous la supervision de Saint Jérôme, tandis que la Bible juive, l'Ancien Testament, fut entièrement traduite en 405. Cette Bible traduite en latin fut appelée la Vulgate. La Vulgate, oui. Mais à l'époque, très peu de personnes ne parlaient ni ne lisaient le latin, car c'était une langue réservée aux clergés et aux riches. Et la possession de cette Bible était interdite au peuple, et toute personne qui en détenait les extraits était persécutée ou brûlée vive par les hiérarchies ecclésiastiques. Oui, beaucoup de gens ont laissé leur vie, tout simplement parce qu'ils avaient en leur possession la Bible. Parce que la vérité fut cachée aux gens, ou bien la vérité était vraiment tenue captive. En réaction, des hommes de Dieu, pourtant impliqués au sein du clergé et de la liturgie, se sont révoltés. Et le plus célèbre d'entre eux fut Martin Luther et Jean Calvin. Oui, beaucoup connaissent cette histoire. Et nous allons parler brièvement de ces hommes qui se sont révoltés et qui ont marqué également leur époque. Très chers auditeurs, très chers auditrices, restez tout simplement à l'écoute. Vous écoutez bel et bien l'air de la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Dieu a toujours suscité des personnes à chaque fois que l'évangile était menacé, afin d'arracher son peuple à l'apostasie et pour le ramener à la vérité et à lui. Et c'est ce qu'il fit en choisissant des hommes courageux, en vue de sortir la vérité de la captivité. En passant, je vais vous donner quelques noms peut-être que vous ne connaissez pas. Par exemple, Pierre Valdo ou Valdès, qui vécut vers 1200 en France, a entrepris une réforme dont les principes étaient les suivants. Les chrétiens devaient connaître les saintes écritures. Les laïcs avaient les mêmes droits que tous les autres, les clergés, et notamment celui d'instruire et d'évangéliser. Et ceux qui suivirent sa doctrine furent appelés les vaudois, issus d'une autre mouvance, mais d'inspiration semblable, les pauvres de Lyon, que l'on appelait simplement les frères. S'aimait la parole de Dieu dans toute l'Europe et connut de se faire des graves persécutions. En 1380, en Angleterre, John Wycliffe s'imposa comme chef des mouvements anticlérical et sa doctrine reposait sur la séparation de l'Église et de l'État et sur le retour à la Bible, celle source de foi, à laquelle on ne doit ni rien ajouter, ni rien retrancher. En 1376, Wycliffe exposa la doctrine de l'autorité de tous les chrétiens en Christ fondée sur la grâce. Pour lui, la véritable Église était invisible, composée de chrétiens en état de grâce. Jean Hus intervint, quant à lui, en 1400 en Europe centrale. Il défendait les idées de Wycliffe, brava les excommunications et affronta les autorités politico-religieuses de Prague, auxquelles il adressa le message évangélique. En 1415, âgé de 46 ans, il fut brûlé vif, condamné par le concile de Constance. Et au XVIe siècle, l'un des plus célèbres réformateurs était le moine allemand Martin Luther. Il énonça sa doctrine du salut par la foi. Et cette doctrine s'opposait aux enseignements de sa religion, qui était fondée sur le salut par les œuvres. Et en 1517, il fit un scandale en opposant sur les portes du château de la ville de Nuremberg où il enseignait des affiches reprenant 95 thèses par lesquelles il dénonçait certains dogmes. Au XVIe siècle, Dieu suscita également Calvin et beaucoup d'autres. En fait, pour résumer, les réformateurs du XVIe siècle remirent sérieusement en question le sacerdoce. Et en effet, ils réfutèrent l'idée selon laquelle un individu pouvait avoir tous les pouvoirs. Ils dénonçaient également la fonction des médiateurs entre Dieu et le peuple attribuée à une seule personne. Et ils encouragèrent certaines personnes à se marier parce que les dogmes étaient qu'ils ne se marient pas pour servir Dieu. Lui, il a commencé à les encourager à se marier et assouplir la liturgie pour donner plus de pratiques et de participation à l'assemblée. En fait, il supprimait la fonction de certaines personnes et réduisit la fonction d'une catégorie de personnes à un chrétien comme tout le monde. Pour autant, les réformes entamées, bien que nécessaires et salutaires, n'ont pas été menées jusqu'à leur achèvement. Et c'est ainsi que jusqu'à nos jours, nous pouvons remarquer que certaines vérités bibliques sont toujours cachées aux chrétiens ou bien ne sont pas du tout proclamées comme cela se doit. Vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Très chers auditeurs, très chers auditrices, je vous ai dit tantôt que je suis en train de courir après le temps, parce que le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'entrer dans les détails, mais je veux juste que vous compreniez ce qui s'est passé, pour que nous retrouvions là où nous sommes aujourd'hui, avec certaines choses qui sont enseignées qui ne sont pas vraiment bibliques, parce que c'est le but de cette émission, l'heure de la vérité. Et parmi les systèmes religieux et les dénominations qui ont existé sur cette terre, si Dieu le permet, nous aurons l'occasion d'étudier tous ces systèmes religieux un à un. Mais maintenant, je veux parler du pentecôtisme. Oui, le pentecôtisme. Le pentecôtisme est un mouvement de réveil évangélique caractérisé par le baptême de l'Esprit et ses manifestations perceptibles par les croyants. Il émergea en 1901 à Topeka, dans le Kansas, à l'initiative d'un ancien pasteur méthodiste. Ce mouvement prit une dimension internationale dès 1906 à Azusa Street à Los Angeles avec un pasteur noir américain du nom de William Seymour. Les pentecôtistes insistent sur la sainteté de la vie chrétienne après la conversion, les dons spirituels et surtout le parler en langue qui serait selon eux le signe indiscutable prouvant le baptême du Saint-Esprit. Le pentecôtisme se répandit rapidement dans le monde entier et dès 1920, il était fortement implanté en Europe et en Amérique du Sud. Et c'est le mouvement religieux chrétien qui connaît actuellement la plus grande croissance numérique, en particulier en Afrique et dans le tiers monde. Et malheureusement, ces mouvements aussi emprisonnent également certaines vérités bibliques. Par exemple, le baptême du Saint-Esprit se manifesterait nécessairement par le parler en langue, alors que la Bible nous enseigne que le parler en langue n'est qu'un don spirituel parmi les autres, et que tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit à leur conversion. Oui, ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous dit clairement que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Donc lorsque quelqu'un se repent, à l'instant, quand il est sincère dans sa confession, il reçoit le Saint-Esprit et ce Saint-Esprit l'incorpore dans le corps de Christ. En fait, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et pour montrer que le parler en langue, c'est juste un don comme spirituel comme tous les autres. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 29 au verset 31. Également avec le pentecôtisme, les bâtiments sont assimilés à l'église. Alors que selon la parole de Dieu, les chrétiens constituent cet édifice spirituel qui est la véritable église. D'après Éphésiens chapitre 2, le verset 22. Éphésiens chapitre 2, le verset 22. Et ce mouvement a également donné naissance à beaucoup d'assemblées, des dénominations et parfois des églises de réveil ou des églises dites indépendantes. Et dans les années 80, des personnes ne se reconnaissant plus dans les mouvements baptistes, évangélistes, évangéliques et pentecôtistes, décidaient d'en sortir pour créer des petits groupes de prière afin de vivre le véritable réveil. Et Dieu exauça les prières et une véritable effusion de l'esprit fut répandue sur eux, accompagnée de manifestations miraculeuses et de nombreuses conversions. Mais malheureusement, les conducteurs de ces mouvements, qui étaient appelés des bergers et qui n'avaient aucune formation théologique et qui surtout qui ne s'habillaient pas de façon particulière, aussi sont tombés dans le piège dans lequel sont tombés tous les autres. Par exemple, ce sont eux qui étaient chargés de tout faire, en particulier le pasteur, c'est lui qui devait bénir les mariages, enseigner, prélever la dîme comme sous la loi, présenter à Dieu les déloyances du peuple, présenter les enfants au Seigneur comme sous la loi, prier pour les malades. Et d'ailleurs, la plupart de ces pasteurs, de ces églises réveillées, évangéliques et autres, se comportent comme des superstars. Oui, beaucoup. Vous n'allez qu'à voir les affiches. Oui, les posters. Oui, ils sont devenus vraiment des superstars. En fait, tout cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Très chers auditeurs, très chers auditrices, c'est juste pour vous dire que si vous voulez la vérité biblique, ce n'est pas dans un système religieux que vous allez la chercher. Parce que beaucoup de systèmes religieux, à commencer par la première jusqu'à la dernière qui est en train d'être créée en ce jour, beaucoup sont corrompus. Si vous voulez la vérité, ouvrez tout simplement la Bible. La vérité biblique se trouve dans la Bible et non dans un système religieux. Même pas le pentecôtisme ou église dite réveillée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chers auditrices, vous écoutez toujours l'air de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, à partir du verset 6 au verset 9, qu'est-ce que nous pouvons lire? L'évangile de Marc, chapitre 7, à partir du verset 6 au verset 9, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous. » Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En étudiant l'histoire de l'Église, et les doctrines qui sont enseignées, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont que des traditions des hommes. Si le Seigneur le permet, nous allons vraiment nous intéresser à toutes ces doctrines qui ne sont que des traditions des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que les gens annulent bel et bien la parole de Dieu pour privilégier les traditions, la tradition des hommes. Oui, c'est de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ que nous comprenons cela. Donc, c'est possible de mettre la parole de Dieu de côté et d'enseigner la tradition des hommes. Oui, c'est possible. D'ailleurs, la dernière fois, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 11, que je peux relire pour finir, 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 3 au verset 4, il est écrit. Je lis pour nous tous, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oui, l'apôtre Paul manifestait déjà une certaine inquiétude, à savoir que les gens se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et on a vraiment compliqué les choses de Dieu. On a introduit beaucoup de choses qui compliquent la foi. Et verset 4, qu'est-ce qu'il va dire? Car si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Donc c'est possible que l'on prêche un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc il y a beaucoup d'évangiles que l'on prêche, en réalité qui n'ont rien à voir avec l'évangile du Seigneur Jésus. Parce que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ se trouve dans sa sainte parole. Et si Dieu le permet, nous allons continuer et nous allons vraiment voir que Dieu veut que les gens connaissent vraiment la vérité. Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'insiste, j'ai dit ceci, je ne suis pas là pour défendre un système religieux. Je suis là pour proclamer la vérité et défendre également la vérité biblique. Parce que je suis convaincu d'une chose, les hommes, avec leur sagesse, avec leur théologie, avec leurs dogmes, avec leurs traditions, ne peuvent point vous sauver. Mais la vérité du Seigneur peut vous sauver et doit vous sauver. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc il n'y a que la vérité du Seigneur, la vérité biblique, qui est capable de rendre quelqu'un libre sur la terre. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous laisse dans la paix du Seigneur, espérant, par la grâce de Dieu, que nous allons nous retrouver sur cette même antenne, même fréquence, et que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était
l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
et ma maison, nous servirons l'éternel.
Moi et ma maison, nous servirons l'éternel.
Moi et ma maison, le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Comme au jour de beau temps, moi et ce que j'aime, ma femme et mes enfants serviront le Seigneur qui nous a franchis tout au long.
Et ma maison.